France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes? Comme le rappelle l'une de nos invitées, Muriel Salles, s'il est un domaine où l'on pense que les inégalités femmes-hommes sont pour une fois en faveur des femmes, c'est celui de la santé. En fait, non, et nos expertes vont vous expliquer en détail pourquoi ce n'est pas le cas, même s'il est vrai que les femmes vivent plus longtemps que la gente masculine. La santé des femmes a été longtemps minimisée, voire ignorée, mais elle commence à être mieux prise en charge, comme nous rappelle le palmarès des villes où elles sont bien soignées que vient d'établir Femmes Actuelles. Nous vous révélerons le classement des meilleures villes où, alors que se profilent les élections municipales. On s'intéressera également aux stéréotypes de genre qui affectent la santé des femmes, notamment dans le domaine cardiovasculaire, qui reste la première cause de mortalité féminine. Et vous dites-nous si du côté de chez vous, vous vous sentez mieux ou moins bien soigné que les hommes. Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Muriel Salles.
Bonjour Ali Rebbi.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences à la faculté de médecine de l'université Claude Bernard à Lyon et à Sciences Po Lyon. Vous avez notamment rédigé un rapport pour le Haut Conseil de l'égalité, prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner, un enjeu de santé publique. Et vous publiez un petit livre absolument formidable qui s'appelle « Femmes et santé, petit par la taille et par le prix ». Femmes et santé, toujours une affaire d'homme avec un point d'interrogation. C'est publié par le Laboratoire de l'égalité et LNN Éditions. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Vous dévoilez dans le numéro à paraître
Samedi,
en kiosque, le palmarès des villes où les femmes sont bien soignées. Bonjour Daniel Assoun, docteur Daniel Assoun.
Bonjour Ali.
Vous êtes experte régulière dans cette émission, vous êtes gynécologue obstétricienne et vous avez collaboré à de nombreuses recherches menées par l'INSERM sur la contraception notamment. Alors Muriel Salles, dans votre livre, vous revenez sur une idée reçue, l'idée que s'il est un domaine où l'on pense que les inégalités femmes-hommes sont pour une fois en faveur des femmes, c'est celui de la santé, et non.
Et non, malheureusement, mais c'est une idée reçue qui a la vie dure, parce qu'elle s'appuie sur la comparaison d'espérance de vie. Et effectivement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Aujourd'hui, les femmes en France, elles vivent un peu plus de 85 ans, quand les hommes atteignent un peu plus de 79. Sauf que ce chiffre-là n'est pas si important qu'on voudrait bien le croire. Ce qui est peut-être nécessaire, c'est de regarder l'espérance de vie en bonne santé. Et là, on a des femmes qui sont à un peu plus de 65 ans, ce qui veut dire qu'elles vivent 20 ans avec des problèmes de santé majeure, presque à égalité avec les hommes.
Et les femmes passent davantage d'années exposées à un risque accru de douleurs chroniques, de maladies invalidantes ou de perte d'autonomie.
Oui, et le tout à une période de la vie où, comme on est à la retraite, on est nettement plus pauvre qu'un homme, puisque l'écart de retraite entre les femmes et les hommes est de l'ordre de 40%. Donc ça fait un petit cumul qui rend la situation bien plus difficile qu'on ne le croit pour nombre de femmes.
Pourtant, pendant longtemps, les femmes ont été protégées, elles buvaient moins d'alcool, elles fumaient moins que les hommes.
Oui, alors on a beaucoup dit effectivement qu'elles avaient des comportements plus vertueux, et c'est un fait, hein, elles étaient protégées par ces comportements. On a aussi beaucoup dit et beaucoup cru qu'elles étaient protégées par un certain équilibre hormonal. Sauf que l'équilibre hormonal au moment de la ménopause, il se recompose. Et donc, toutes ces idées reçues, elles expliquent aujourd'hui que la santé des femmes, c'est souvent un impensé.
Et pourtant, les femmes sont suivies tout au long de leur vie en gynécologie. Docteur Assoun, elles consultent plus de médecins que les hommes.
Alors c'est vrai, elles ont cette spécialité qui leur est dédiée, qui est la gynécologie obstétrique, c'est-à-dire en fait les soins autour de la maternité quand même. Mais le problème, c'est qu'elles ne consultent pas de façon égale. C'est de nouveau, effectivement, il y a une véritable inégalité quand même à l'accès aux soins, à l'accès aux spécialités. Et il est vrai que c'est vrai qu'on a le sentiment comme ça qu'il y a un accès aux soins qui pourrait sembler finalement assez bon, voire spécifique, donc dédié, mais qu'en fait c'est plus la façon peut-être dont on les reçoit dans ces consultations qui fait qu'il y a un renoncement aux soins qui est tout à fait non négligeable dans la population des femmes.
Et pourtant, même si elles sont bien suivies d'un point de vue gynécologique, certaines maladies dont souffrent les femmes sont moins bien diagnostiquées et soignées plus tardivement, Muriel Salles.
Alors oui. Oui, pardon, oui. Ça, c'est important. C'est-à-dire que souvent, on confond santé des femmes et ce qu'on appelle de manière ironique, l'expression est d'ailleurs celle d'une cardiologue américaine, la médecine bikini. En fait, moi, j'aime à rappeler que les femmes, effectivement, ont aussi un cœur, un cerveau, un appareil digestif et donc elles souffrent aussi par ces organes-là. Et on a des données aujourd'hui qui montrent que, par exemple, il y a des retards à la prise en charge en cas d'infarctus du myocarde. Il y a une prise en compte de la douleur des femmes qui est moindre. Et on a vraiment des éléments chiffrés, documentés qui permettent de pointer ces inégalités de prise en charge.
C'est quoi cette médecine bikini ?
La médecine bikini, c'est la médecine qui ne s'intéresse qu'à ces organes qui sont sous le bikini, donc les seins et puis l'appareil sexuel et reproductif. Voilà. Mais les femmes ont d'autres spécificités que celles qui se logent seulement sous le bikini.
Et on reviendra tout à l'heure sur les maladies cardiovasculaires. Première cause de mortalité chez les femmes dans les pays industrialisés devant le cancer du sang. Sabrina Nadjar, pourquoi avez-vous fait ce palmarès? Comment est née cette idée de ce palmarès des villes où les femmes sont bien soignées?
Parce que...
Et quelle est la méthodologie?
Bon, alors, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un leurre de penser que les femmes sont mieux soignées que les hommes. Donc, on voulait effectivement démontrer qu'il y avait effectivement une inégalité dans le traitement des femmes, mais pas que, en fait, une égalité homme-femme, mais aussi une égalité dans le territoire. Et on a voulu ramener ça au niveau des villes, c'est-à-dire vraiment au plus proche du quotidien des administrés. Alors, comment on a procédé? On a calculé la densité de généralistes, de gynécologues, d'infirmiers, de sages-femmes. Puis ensuite, on a compté le nombre de maternités, de services hospitaliers spécialisés dans l'endométriose, la ménopause, l'assistance médicale à la procréation, la sexualité. Et puis, on a pris le pouls des politiques municipales en interrogeant le nombre de conseillers municipaux dédiés ou les actions de prévention menées par les mairies. Il faut savoir que dans certaines villes en France, vous avez un adjoint dédié aux animaux et pas à l'égalité homme-femme.
On reviendra tout à l'heure sur votre classement. Revenons à la relation interpersonnelle entre les médecins et leurs patientes et patients. L'attitude des médecins est-elle la même quand il s'agit d'une patiente et d'un patient, Muriel Salles ?
Alors, on documente aujourd'hui le fait qu'il peut y avoir des différences. Alors évidemment, c'est compliqué d'être systématique.
Bien sûr. Hein,
voilà. Mais effectivement, on repère que sur certaines problématiques de santé, j'évoquais par exemple tout à l'heure la douleur, on a des données qui montrent que, je vais donner un seul exemple, c'est une étude qui date de 2024, que quand on a le même scénario clinique au moment d'une prise en charge aux urgences, pour une question de douleur, avec la même histoire médicale, 62% des soignants vont juger que le cas est grave pour un homme, contre 49% quand il s'agit d'une femme. Et ça tient moins à des qualités personnelles que à la fois à des socialisations professionnelles, hein, quand on n'entend pas parler suffisamment des spécificités féminines, et puis les termes dans lesquels on en entend parler ne sont pas toujours adéquats, ben on ne prend pas les femmes en charge correctement. Et puis ça tient aussi à la socialisation pré-professionnelle. Hein, voilà, on est socialisé dans ce qu'on appelle un système de genre, et donc on a des stéréotypes sur ce que sont les femmes et ce que sont les hommes. Et donc on manque des choses, même quand on porte une blouse blanche.
Docteur Hassoun.
En fait, c'est vrai que être malade, c'est une prise en charge médicale, technique. Hein. On peut considérer probablement d'ailleurs que pour un cancer, une femme sera soignée exactement de la même façon qu'un homme. Je pense que sur ça, il n'y a pas vraiment de problème. Mais le problème, c'est la prise en charge médicale, mais pas seulement. Il y a une autre prise en charge qui est indispensable. Alors, c'est pas une question de genre seulement, mais pour les femmes, c'est encore plus difficile. C'est que elles sentent probablement dans un bon nombre d'endroits et par rapport à certains médecins qu'elles ne peuvent pas parler d'un certain nombre de leurs problèmes. C'est vrai pour la douleur, Muriel vient de le dire, mais c'est vrai par exemple pour la ménopause, c'est vrai pour des choses comme l'incontinence urinaire, c'est vrai pour les règles, c'est vrai que toute une série de choses qui sont finalement tellement tabous que finalement elles n'osent plus en parler, alors que certes, il n'y a pas toujours des problèmes médicaux ou des problèmes qui mettent leur vie en danger, mais ça implique en tout cas un inconfort. Et effectivement, les femmes vivent peut-être plus âgées, c'est vrai, mais peut-être pas dans un confort absolument nécessaire.
Muriel Salle.
Ouais, bah juste sur ça, effectivement, aujourd'hui, on documente que le problème de l'accès aux soins, il tient au manque de l'offre. Il y a des délais, et là, il y a des choses remarquables qui sont dites dans le dossier Femmes Actuelles. Il tient à l'accessibilité. Il faut poser la question du coût, il faut poser la question du transport et des mobilités. Voilà. Et puis, il tient aussi, et ça, c'est bien documenté, au fait qu'il y a des femmes qui anticipent ce qu'on va appeler le traitement différentiel qu'elles peuvent subir de la part des soignants. Parfois, on peut appeler ça carrément de la maltraitance, notamment parce que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Ne pas être blanche, ne pas être riche, ne pas être très suffisamment francophone, ben tout ça fait que vous n'allez pas chez le médecin très volontiers.
Sabrina Nadjar.
Et puis vous avez aussi un déficit de formation. Alors peut-être moins sur les jeunes générations de médecins qui sont davantage formés à ces questions, mais vous avez toute une génération de médecins qui n'étaient pas formés à la ménopause, qui n'étaient pas formés à ces problématiques féminines. On allait chez le médecin en disant qu'on ne se sentait pas bien, qu'on avait des problèmes de sommeil, etc. Et on repartait avec un antidépresseur, alors qu'on est dans une période juste de périménopause et que voilà, c'est tout autre chose. Donc c'est aussi cette différence de traitement qui est importante.
Et puis Muriel Salle, pendant très longtemps, le modèle pour penser le corps humain en médecine était largement masculin. On appelle cela l'androcentrisme. Les savoirs médicaux étant construits par des hommes, les questions que se posaient les médecins hommes étaient surtout des questions qui les intéressaient en tant qu'hommes.
Oui, alors ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps à mes étudiants. Je leur dis toujours, en fait, en science, on ne répond qu'aux questions qu'on pose. Donc, les questions qu'on ne pose pas restent des questions, effectivement, sans réponse. Et l'androcentrisme, alors vous dites aimablement que ça a été pendant très longtemps. Je crois, malheureusement, qu'il faut dire que c'est toujours le cas. On pense d'abord la santé et le corps et les maladies au masculin. Et puis, quand on se pose la question des femmes, on se la pose en deuxième intention. On se dit, au fait, chez les femmes, comment est-ce que ça marche? Et quand on procède comme ça, on construit les femmes comme des exceptions, et ça, c'est problématique pour faire une prise en charge satisfaisante.
Docteur Hassoun.
Alors, c'est vrai que la médecine qu'on nous a apprise, c'est une médecine avec des symptômes qui ont été décrits pour des hommes. De même que les thérapeutiques, finalement, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, n'étaient testées que sur des hommes. Donc, c'est vrai qu'il y a une inadaptation et une méconnaissance de la part des médecins, et même des étudiants en médecine, on peut dire des étudiantes en médecine, qui fait que, finalement, on évalue mal et on diagnostique probablement pas vraiment bien un certain nombre d'éléments. Alors, une des choses qui va probablement changer aussi, c'est la féminisation du corps médical. Alors, bonne chose, mauvaise chose, on peut en discuter, évidemment, mais on est maintenant quand même à 70% de femmes pour...
Et je parle sous le contrôle de notre historienne, il faudra attendre la fin du 19e siècle pour qu'une femme puisse s'inscrire à la faculté de médecine.
Ouais, effectivement, c'est Madeleine Bresse, la première effectivement à s'inscrire en faculté de médecine. Donc ça commence à faire un petit moment qu'il y a des femmes dans les facultés de médecine. Après, moi je ne partage pas l'optimisme de Daniel Hassoun. Je ne pense pas que la féminisation suffise en fait. Voilà. Non mais je ne suis pas optimiste du tout
pour former un certain nombre de jeunes médecins maintenant, je me rends compte qu'effectivement, les idées reçues, la domination masculine, elle est encore beaucoup dans la tête des jeunes médecins, femmes ou hommes.
Oui. Pourquoi
et donc, je ne suis
pas
d'un optimisme délirant, non.
D'abord parce que je ne pense pas que les femmes soient immunisées contre les stéréotypes de genre et contre le sexisme. Et je pense que si on n'est pas formé à être ce que moi j'appelle être sensible au genre, c'est-à-dire à être attentif au fait qu'il y a des femmes et des hommes, des différents qui relèvent du biologique et puis des différences qui relèvent des socialisations, des expériences, des conditions de vie aussi. Hein. Quand même, il y a un moment, il va falloir dire que les femmes et les hommes n'ont pas tout à fait les mêmes expériences de vie. Et ben ça, c'est quelque chose qui ne vous vient pas spontanément à l'esprit, même si vous êtes une jeune femme, même si y a des changements un peu générationnels, mais il faut former, ça a été dit tout à l'heure, et il faut former de manière plus ambitieuse qu'on ne le fait aujourd'hui.
Et nous accueillons Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali.
Bienvenue. D'où appelez-vous Frédéric ?
De Paris.
Alors, quel est votre témoignage ?
Non, moi, je voulais juste dire que je pense également que les instruments ne sont pas adaptés au corps féminin. Mmh. Moi, j'ai eu un problème coronarien et il a fallu, on passe des petites caméras à travers les artères pour essayer de voir où c'en est exactement. Moi, j'ai trouvé ça horriblement douloureux. Les stents, ils n'ont jamais pu les passer par les veines du bras, il a fallu faire par la fémorale. Et quand j'étais dans un groupe de rééducation cardiaque, toutes les femmes ont dit la même chose, que c'était horriblement douloureux, alors que les hommes, rien du tout. Donc je pense que, par exemple, tout ce matériel-là, il est adapté au corps masculin, mais pas du tout aux femmes.
Est-il vrai, docteur Hassoun, hein, je parle sous votre contrôle, que les artères féminines sont plus fines que celles des hommes ?
Probablement, mais alors là, ça sort complètement de mes compétences. Je ne suis pas en mesure de vous répondre.
Mais sur Muriel Salles, sur le témoignage de Frédéric.
Non, mais il y a des choses documentées sur le fait qu'il y a des différences anatomiques, effectivement, entre les femmes et les hommes. Moi, je t'entends deux choses dans le témoignage de Frédéric. L'inadaptation des outils, et effectivement, on a des exemples qui le montrent. Et puis le fait que toutes les femmes se plaignent en activité physique adaptée, mais que, j'imagine, on prête une oreille distraite à ces plaintes-là, et donc du coup, on ne fait pas évoluer le matériel médical.
Et est-ce que, Frédéric, est-ce que vous vous êtes plainte à l'époque de ces douleurs que vous ressentiez lors de la pose de Stan, par exemple et comment a été...
On ne sait pas si c'est normal ou pas.
Ouais.
On n'a pas de comparaison. Donc on ne va pas commencer à dire « Ah, c'est pas normal ». On n'en sait rien.
Merci beaucoup Frédéric de votre témoignage et n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. On continue à s'intéresser à la santé des femmes. En attendant, on écoute Véronique Sanson, comme je l'imagine, sortie en 1972, 10h23 sur France Inter. Véronique Sanson interprétée comme je l'imagine.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes? C'est notre question ce matin avec l'historienne Muriel Salle qui publie avec Catherine Vidal « Femmes et santé, toujours une affaire d'hommes » avec un point d'interrogation, avec notre experte, la gynécologue Danielle Assoun, et avec la journaliste de Femmes Actuelles, Sabrina Nadjar. Une question très intéressante posée par Aude qui nous dit « Infirmière de métier, j'ai été surprise de voir que tous les médicaments sont dosés pour des paramètres d'hommes. Rien n'est pris en compte avec notre particularité hormonale qui joue sur les interactions médicamenteuses. Docteur Assoun.
C'est vrai parce qu'en fait, les essais cliniques, c'est ce que je vous disais précédemment, il y a une vingtaine d'années, n'étaient faits que sur des hommes.
Sur des modèles animaux mâles.
Et des modèles animaux mâles, mais aussi que sur des hommes. Donc finalement, les doses qu'on donne aux femmes sont celles qui ont été testées sur des hommes. Donc probablement, pour une bonne part, absolument pas adaptées. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est dans les plaintes des femmes, souvent, on dit qu'elles se plaignent des effets secondaires et on n'en tient pas vraiment compte. Et ça, c'est vraiment un manque terrible, parce que avoir des effets, se soigner et prendre des médicaments, c'est parfois indispensable, mais en avoir les effets secondaires, ça gâche véritablement la vie. Et c'est là où la qualité de vie n'est pas bonne.
Muriel Salle.
À mon avis, le problème, il tient aussi à l'imaginaire qu'on a de ce que sont les différences entre les femmes et les hommes. Il y a une chercheuse canadienne qui dit que les femmes ne sont pas de petits hommes. Or, souvent, quand on adapte des posologies, en fait, on fait une règle de trois en se disant une femme, c'est plus petit, ça pèse moins lourd, donc on dose moins. Sauf que la différence entre les femmes et les hommes, elle est plus complexe que ça. Les hormones ont été évoquées. C'est une partie du sujet. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur les différences de métabolisme. Donc là aussi, il faut mener des travaux qui ne soient pas systématiquement biaisés par la façon dont on s'imagine une femme plus petite, une femme dont l'organisme serait seulement piloté par ses variations hormonales. Ne serait-ce que parce qu'il y a des femmes ménopausées pour lesquelles les variations hormonales se posent dans d'autres termes.
Tiens, à ce propos, nous recevons Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Isabelle, d'où appelez-vous Isabelle ?
Pont-Aven.
Et quelle est votre question, votre témoignage ?
C'est parce que j'ai une amie qui est dans une impasse, pourtant bien suivie dans un hôpital du Morbihan, mais elle est dans une impasse parce que les hormones interagissent avec son problème thyroïdien apparemment, et on ne lui résolut rien. Elle a beau aller travailler tous les jours à vélo, elle fait une heure de vélo aller-retour, elle a pris 9 kilos en 2 ans, elle est toute gonflée, elle est comme d'un œdème, et c'est vos hormones. Alors, est-ce que la difficulté pour les médecins encore actuellement, c'est de se réfléchir à tout ce problème d'interaction hormonale féminine ?
Muriel Salle.
Dans nos problèmes de santé.
Je crois que c'est pas Véronique Sanson qu'il fallait nous faire écouter, c'était Anne Sylvestre avec c'est la faute aux hormones, Simone. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est non, mais pardon, mais c'est classique. C'est-à-dire que là, la dame, en fait, on lui répond c'est la faute aux hormones, et puis en fait, on n'en sait rien, et en fait, on est assez un peu paresseux, et on va pas vraiment lui proposer de solution puisqu'on cherche pas vraiment la nature du problème.
Docteur Assoun.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire quand on est médecin souvent qu'on ne sait pas. Alors quand on ne sait pas, alors on le met sur le dos des hormones, des femmes, des plaintes, etc. C'est une façon très cavalière de répondre.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. Alors Muriel Salle, soyons un peu positifs tout de même ce matin. Au cours du XXe siècle, la santé des femmes a connu des évolutions positives majeures. Je pense par exemple au recul de la mortalité liée à la grossesse et à l'accouchement.
Alors là, effectivement, il y a eu des changements majeurs en matière de mortalité périnatale, même si on a quand même aujourd'hui des évolutions qui sont plutôt inquiétantes de ce point de vue-là, même si là encore, il faudrait faire des différences entre les femmes, être une femme vulnérable parce que pauvre, parce que racisée, ça vous surexpose. Même si on a des données qui ont montré récemment que la première cause de mortalité maternelle à égalité avec la cause cardiovasculaire, c'est le suicide. Ça, je trouve que c'est des données que moi je trouve absolument saisissantes. Donc oui, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qui ont changé depuis grosso modo les années 70. Et moi je crois important de dire que les choses ont changé parce qu'il y a eu des mobilisations. Des mobilisations qui relèvent de mouvements qui sont des mouvements collectifs, notamment les mouvements féministes, hein, c'est les mouvements pour la santé des femmes aux États-Unis et en France. Et puis des évolutions législatives, voilà, il fut un temps au début des années 90 où les États-Unis étaient en pointe sur ces sujets-là.
Et d'ailleurs, vous avez un chapitre dans votre livre, Le féminisme au secours de la santé de toutes et de tous. Sabrina Nadjar, de Femmes Actuelles.
Oui, en fait, la problématique aussi, ces derniers temps, parce qu'on parle effectivement de la mortalité féminine et la périnatalité, les chiffres sont très inquiétant. En fait, on a un retour en arrière. Alors, ce retour en arrière, il est aussi dû effectivement aux toutes ces petites maternités qu'on a dû fermer, ou alors ces maternités qui sont restées en place, mais qui n'ont pas la structure nécessaire pour intervenir quand il y a une problématique. Et aujourd'hui, en France, on se retrouve parfois à une heure d'une maternité qui peut prendre en charge une difficulté à la naissance, un enfant kiné, cyanosé ou quoi que ce soit. Et cette problématique entraîne vraiment un retour en arrière.
Daniel Assoun.
C'est une histoire quand même très complexe, cette histoire de petite maternité, grande maternité. C'est vrai qu'un des arguments, c'est de dire, dans les petites maternités, comme on n'a pas l'expérience de pathologies diverses et multiples, c'est vrai qu'on ne sait pas bien réagir quand survient un événement grave. Donc c'est un des arguments. Effectivement, c'est de dire, si on réunit, si on fait des grandes maternités, à ce moment-là, on a une sécurité plus grande. Mais ce qui manque, c'est probablement des structures intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est passé du petite maternité aux énormes maternités, et il manque toute une série de structures qui sont des structures intermédiaires, et qui, effectivement, auraient une grande utilité en termes de sécurité, mais aussi en termes d'accueil.
Justement, on a une problématique aussi en France sur ces petites maternités qui devraient être dévolues à la post-naissance, c'est-à-dire la prise en charge des mères après la naissance. On parlait tout à l'heure de suicide, mais effectivement, on a une problématique de santé psychique après la naissance d'un enfant qui n'est absolument pas prise en charge, et ces petites maternités pourraient être un relais vraiment indispensable à ce moment-là.
Et j'aimerais que nous accueillions Julia. Bonjour Julia, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Nîmes, bienvenue.
Oui, j'habite dans le Gard.
Quel est votre témoignage, Julia ?
Alors moi, je voudrais parler de la difficulté d'être prise en charge en cardiologie quand on est une femme, parce que ça m'est arrivé d'avoir des soucis de santé et d'être confrontée à des médecins qui pensent qu'une femme qui a une douleur à la poitrine fait une crise d'angoisse. Et ça retarde la prise en charge des femmes. Et heureusement, après, j'ai pu être évaluée, vérifiée par un cardiologue qui lui a fait son travail et m'a diagnostiqué ce que j'avais, c'est-à-dire une péricardite. Mais c'est vrai qu'au départ, une femme qui a des douleurs à la poitrine, c'est pas forcément cardiologique. Et c'est forcément une crise d'angoisse. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le noter et de partager cette mauvaise expérience, on va dire.
C'est très très important ce que vous nous dites, Julia, et votre témoignage arrive à point nommé parce que nous accueillons la professeure Claire Mounier-Veillé. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Vous êtes cardiologue à l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille et vous avez fondé le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes qui finance un bus formidable. C'est le bus du cœur des femmes qui sillonne la France depuis 2021 pour dépister les maladies cardiovasculaires des femmes en situation de vulnérabilité. Un travail vraiment absolument formidable, professeur Mounier-Veillé. Le témoignage de Julia, il est édifiant.
Ah, mais il résonne complètement dans les fondements de la Fondation Agir pour le cœur des femmes, car on avait fait un benchmark, en fait. On avait regardé ce qui se passait en France. Et effectivement, les femmes sont soumises à une succession de pertes de chance, comme j'ai pu l'entendre en début d'émission. Leur écoute est négligée, mais aussi elles mettent leur santé entre parenthèses. Hein, elles ont un suivi médical en pointillé, elles vont différer leur rendez-vous. Elles s'occupent de la santé de leurs proches, alors que si on dépiste à temps, on peut éviter, dans 8 cas sur 10, le premier accident. Et les chiffres sont percutants. En France, c'est une femme toutes les 7 minutes qui décède d'une maladie cardio-cérébrovasculaire. Tiens, c'est l'AVC puis l'infarctus.
Pourquoi est-ce que Julia a été, enfin, son cas a été sous-estimé? On lui parle tout de suite de crise d'angoisse alors qu'elle a une péricardite, qui est une pathologie cardiovasculaire assez grave.
Alors, c'est une inflammation du sac. Le péricarde, c'est un petit sac dans lequel est le cœur. Et généralement, c'est d'origine virale. Alors, Julia, ça, effectivement, on est dans une médecine du genre encore trop en France. Et on considère que les maladies cardiovasculaires sont des maladies masculines. Mmh. Ça va rentrer en écho avec ce que dit Muriel. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les actions qu'on mène avec Agir pour le cœur des femmes, c'est pour justement dire aux femmes, vous êtes aussi concernées, même si vous êtes jeunes. D'où les consultations de dépistage.
Pourquoi l'infarctus du myocarde a été si longtemps sous-estimé chez les femmes? Alors, il existe bien sûr des symptômes communs avec l'infarctus du myocarde masculin. Il y en a des spécifiques.
Oui.
Alors, rappelez-nous-les, c'est très important, tiens, de rappeler les symptômes spécifiques aux femmes de l'infarctus du myocarde.
Alors, déjà, dans 9 cas sur 10, il y a toujours une gêne dans la poitrine. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas forcément la douleur en étau qui serre, qui va dans le bras et la mâchoire, qui traduit l'artère qui est complètement bouchée brutalement. Mais elles ont également des symptômes digestifs, douleur au creux de l'estomac, essoufflement, palpitations, fatigabilité. Et en fait, les femmes sont habituées à la douleur, par les règles, par l'accouchement, et du coup, elles vont plutôt se focaliser sur les symptômes d'accompagnement, et ça va brouiller le diagnostic et retarder la prise en charge, effectivement.
Et rappelons que la première cause de mortalité des femmes reste les maladies cardiovasculaires, c'est bien ça, professeur Mounier-Veillet?
Oui, alors je rajoute cérébraux. Parce que c'est d'abord l'AVC, puis l'infarctus et les autres pathologies artérielles.
Devant le cancer du sein.
Devant le cancer. Et vous parliez du bus. Effectivement, on repart pour la 6e saison le 11 mars à Argenteuil. Pour 3 jours, on a 16 étapes. Mais maintenant, on a la petite sœur du bus. C'est la journée du cœur des femmes qui se passe dans des maisons de santé, à l'hôpital, en clinique privée, avec 70 journées sur toute l'année, donc ça fait 90 événements, et ça permet de répondre aussi à ce que j'ai entendu en début d'émission, d'aller dans les territoires très reculés. On peut dépister des femmes dans des villages de 600 habitants.
Il y a un site où on peut retrouver actions, dites-le.
Alors c'est www.agirpourlecoeurdesfemmes.com, vous avez le calendrier des événements. Et c'était aussi l'occasion de remercier, parce qu'on est financé par des fonds privés, nos partenaires. Et surtout, on a 3000 professionnels de santé bénévoles.
Agir,
tout est bénévole.
Agir pour le cœur des femmes. Et je rappelle qu'en 2023, 75 000 femmes sont décédées d'une maladie cardiovasculaire, soit un décès de femme sur 3. Tous les jours, environ 200 femmes meurent d'une pathologie cardio-cérébro-vasculaire, dont des femmes jeunes. Merci de nous avoir appelé, Julia.
Mais je vous en prie.
Et peut-être, reste avec nous, il y a juste Muriel Salle qui veut intervenir.
Non, je voudrais juste aller dans le sens de ce que dit la professeure Mounier-Veillet pour dire que faire de l'aller vers, c'est vraiment indispensable. Pour les femmes, consulter un cardio, c'est indispensable. Et juste signaler, parce qu'en région aussi, il se passe des choses, le périnée bus tour, en plus, j'adore l'intitulé. C'est effectivement une de mes amies qui s'appelle Camille Talet, qui est une formidable sage-femme, qui fait de l'aller vert depuis maintenant 2023 avec un bus. Voilà. Il s'agit d'aller proposer de la consultation gynéco chez les femmes, notamment dans les quartiers politiques de la ville, parce qu'on peut être loin sans être loin de la ville. Et qui, là, pour la peine, est totalement sur des fonds personnels. C'est-à-dire il n'y a pas d'argent, de subvention ni de soutien de quelque nature.
Tiens, puisque la professeur Mounier-Veillé est avec nous, Sabrina Nadjar, dans le palmarès des villes où les femmes sont bien soignées, vous nous révélerez les deux premiers en fin d'émission. À la troisième place figure Lille.
Absolument, exactement.
Et Claire Mounier-Veillé qui est interviewée dans votre numéro.
Tout à fait.
Alors Lille, pourquoi Lille est troisième?
Parce que Lille se place très en haut en matière de densité de cardiologues, donc deuxième rang en France, de présence de centres de santé sexuelle, troisième rang, et d'accessibilité potentielle au médecin généraliste, quatrième rang. Et puis, ce n'est pas que ça, c'est aussi, on parlait tout à l'heure, d'aller au plus proche des gens, et notamment des gens qui sont éloignés de la médecine. Et la cité nordiste est particulièrement engagée dans la prévention dans les quartiers. Elle a mis en place des ambassadrices santé qui interpellent les communautés autour de la vaccination pour les amener à participer aux campagnes de vaccination, mais aussi aux campagnes de dépistage. Et notamment, par exemple, on a l'infection à papillomavirus humain qui est concernée, mais il y a aussi des centres sociaux au plus proche des habitants qui proposent des ateliers cuisine valorisant une alimentation simple et diététique. Donc la santé, c'est un tout et tout le monde a le droit à la santé.
Et Lille, donc, troisième de ce classement des villes où les femmes sont bien soignées, classement à paraître dans Femmes Actuelles. Un dernier mot peut-être, professeur Mounier-Veillé.
Écoutez, je suis très investie dans la prévention de la ville de Lille, parce que j'avais un mandat de conseillère municipale, et nous espérons continuer ce plan de prévention. Il y a également tout un axe sur la santé mentale des habitants, avec un partenariat avec le CHU de Lille. Donc oui, c'est une région où on a beaucoup de bénévolat, beaucoup d'associatifs et une ville très engagée.
Toute dernière question, que préconisez-vous pour améliorer la santé cardio-cérébro-vasculaire des femmes pour que l'AVC ne soit plus la première cause de mortalité chez les femmes ainsi que l'infarctus du myocarde? Qu'est-ce que vous préconisez?
J'ai envie de dire aux femmes, écoutez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous dépister. On a trois périodes clés de repérage. La première, contraception. Et c'est vrai que les œstrogènes de synthèse, c'est une des premières causes d'AVC de la jeune femme. Donc, on n'a pas le droit de mourir pour une contraception pas adaptée. C'est ensuite l'encadrement, effectivement, de la grossesse, avec des bilans après l'accouchement quand il y a eu de l'hypertension, du diabète. Et il y a l'entrée dans la ménopause. Et on a le rapport de Stéphanie Ritz, à laquelle j'ai aussi participé, où aujourd'hui, on a cette consultation 360 degrés des femmes. Et il faut vraiment que les femmes prennent le temps de se prendre en charge. Leur santé, c'est leur bien le plus précieux, j'ai envie de dire.
Docteur Daniel Assoun.
Alors, évidemment, je ne peux qu'adhérer à ces trois moments de la vie des femmes pour lesquels il est absolument fondamental de bien discuter avec les femmes, de voir quelles sont les contre-indications. C'est pas que la pilule est dangereuse en soi, mais elle est dangereuse dans certaines conditions. Et c'est absolument fondamental que la formation des médecins aille aussi dans ce sens et interroge mieux les femmes sur leurs antécédents personnels et familiaux afin d'éliminer effectivement un certain nombre de contre-indications qui sont dangereuses quand on prend la pilule. Je voudrais aussi rajouter quelque chose par rapport à la santé mentale. Je pense que là, alors, c'est une zone vraiment plus que grise. Je pense qu'on en parle très peu. Et on sait assez peu de choses. Déjà, la santé mentale, ça ne va pas très bien dans notre pays. Il y a vraiment de gros problèmes de démographie médicale, de démographie de personnel. Mais je pense, alors là, pour les femmes, c'est encore pire. Et je pense que ça nécessiterait quelques études importantes sur ce sujet.
Muriel Salle.
Moi, je voudrais juste dire un mot sur ces messages de santé publique qui sont évidemment indispensables. Bien sûr, écoutez-vous. Mais c'est presque des injonctions inatteignables pour beaucoup de femmes. Enfin, c'est comme manger 5 fruits et légumes par jour. Bio de préférence, et pourquoi pas, moi, aller manger des huîtres en terrasse, par exemple. Bon, bah, y a des femmes pour lesquelles tout ça, c'est des vœux pieux. C'est comme quand on vous dit qu'il faut bouger 30 minutes par jour. Mais quand voulez-vous qu'elles le fassent pour beaucoup d'entre elles?
C'est pour ça que le bus des femmes existe. C'est pour aller vers, comme vous le dites.
C'est pour aller vers. Et puis, il faut accompagner toutes ces injonctions à faire mieux, autrement. Voilà, on voudrait toutes manger mieux, bouger plus. Mais comment est-ce qu'on s'y prend dans des emplois du temps chargés avec des porte-monnaies contraints, quoi?
Je dirais que ces injections, c'est un peu une façon de dire aux femmes, bah, vous ne faites pas bien. Et ça, c'est quand même très agaçant.
Sabrina Nadjar.
Et puis, il faut savoir aussi que les femmes se mettent en retrait dans la famille. Elles font passer les enfants en priorité, puis ensuite le conjoint. C'est elles qui prennent les rendez-vous médicaux pour le conjoint. Et puis, quand elles ont un tout petit peu de temps, peut-être qu'elles se penchent sur leur santé.
Merci beaucoup, professeur Claire Mounier-Veillé.
Je vais terminer.
Oui, allez-y.
En disant que... Les dépistages que nous faisons, derrière, on les remet dans des parcours de soins. Et j'en voulais dire aussi les injonctions, comme vous dites. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on prend le temps d'écouter nos patientes en consultation, En fait, c'est de l'écoute aussi. Mmh. Et elles ont besoin d'être mises en confiance. Voilà, c'est tout ce que je voulais
dire. Merci beaucoup, professeur Mounier Veillé. Allez, dans un instant, on s'intéresse au palmarès des villes où les femmes sont le mieux soignées. Ce sera juste après avoir écouté Parcells, qui interprète Leave Your Love, 10h45 sur Inter. S'interpréter Live Your Love.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Les femmes sont-elles moins bien soignées que les hommes ? C'est notre question ce matin avec l'historienne Muriel Salle, la journaliste de Femmes Actuelles Sabrina Nadjar et avec la gynécologue Danielle Assoun. Et nous accueillons Laurence. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous vous appelez d'Orléans.
C'est cela, oui.
Quel est votre témoignage, Laurence ?
Moi, je vous appelle parce que, alors aujourd'hui, j'ai 60 ans, mm-hmm. et ça fait à peu près une dizaine d'années que lorsque je vais voir mon généraliste, j'entends dire « Oh, c'est la ménopause, c'est la préménopause, c'est la ménopause ». Et là, depuis 2-3 ans, je me sens très fatiguée, j'ai pris du poids, mais genre empâtée en fait, vraiment du poids, et que je n'arrive pas à gérer, malgré une alimentation saine, puisque j'ai une alimentation anti-inflammatoire pour l'arthrose, où je fais très attention à ce que je mange, pas de plat préparé. Et pour autant, donc cette fatigue, ces douleurs articulaires, et puis ce poids. Et récemment, j'ai écouté une émission du naturopathe qui expliquait que les femmes de plus de 50 ans, parfois n'arrivaient pas à perdre du poids parce qu'elles avaient une résistance à l'insuline. Et donc j'ai demandé à mon médecin de me faire une prise de sang pour contrôler l'indice de HOMA. Oui. Et en fait, cet indice de HOMA, qui est la résistance à l'insuline, montre que je suis extrêmement résistante puisque j'ai plus du double du normal, du taux normal. Et là, il y a 2 jours, on a refait une prise de sang et il est probable que je sois diabétique en fait.
De type 2.
Alors, je sais pas, je n'y connais pas suffisamment, mais je dois le revoir. Toujours est-il, c'est que si je n'avais pas insisté pour avoir cette prise de sang, je n'aurais pas eu cette information. Ça veut dire qu'en plus de ce que je sais maintenant, c'est AVC, accident cardiovasculaire, de l'inflammation dans le corps. Enfin, c'est beaucoup de choses. Et tout ça serait passé sous le fait que c'est la ménopause. Et donc, vu le taux important que j'ai, je pense que ça fait plusieurs années que je souffre de cela. Et je me dis que voilà, il y a un vrai souci aussi sur, parce que c'est pas la première fois que je m'entendais dire par mon médecin, c'est la ménopause.
Témoignage très édifiant, Muriel Salles.
Bah oui, c'est la photo d'hormone, Simone. Voilà, rebelote, quoi. Et moi, j'entends aussi deux choses. C'est quand on ne prend pas en charge les femmes de manière satisfaisante dans les filières de soins que je vais appeler classiques, eh ben, elles vont chercher de l'information, voire du soin dans des filières que je vais appeler alternatives. Et ça pose un certain nombre de difficultés. Voilà, moi, je ne suis pas du tout une experte des autres médecines, donc je n'en dirai rien. Je vois juste déjà un premier problème qui est que beaucoup de ces soins alternatifs sont non remboursés et donc ça pose un problème d'accès pour les femmes qui manquent de moyens, par exemple.
Sabrina Nadja.
Et concernant le test OMA, on s'est rendu compte que beaucoup de médecins refusaient de le prescrire. Pour eux, c'est pas un test fiable, alors qu'il l'est tout à fait. Pour eux, on prend en charge la glycémie, etc. On ne passe pas par là.
Docteur Hassoun.
Ça pose la question d'écouter les symptômes que les patients et les patientes, d'ailleurs c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes, présentent. De les entendre et d'entendre ce qui ne va pas. Et d'entendre aussi quelque chose, ou d'arriver à dire quelque chose, c'est que ce n'est pas toujours que la ménopause. Il y a aussi le vieillissement. Les prises de poids sont liées en fait au vieillissement, à l'âge. Moi, je dis toujours aux femmes, mais regardez les hommes autour de vous, ils prennent du poids aussi, et ça serait bien quand même que, voilà, pourquoi y a-t-il cette différence entre les hommes et les femmes? Non, il n'y a pas de différence, les hommes ils prennent du poids aussi, c'est un problème d'âge. Donc là, dans ce que raconte cette dame, c'est une écoute qui n'a pas été quand même tout à fait suffisante, et un a priori dans la tête du professionnel de santé qui a décidé que c'était la ménopause. Or, elle a 60 ans, elle est 10 ans après la ménopause. On est dans une autre histoire, dans une autre pathologie qu'il faut prendre en charge.
Merci beaucoup, Laurence, pour votre témoignage très éclairant. Tiens, docteur Hassoun, j'aimerais qu'on s'intéresse deux minutes à l'endométriose. Nous avons déjà consacré plusieurs émissions à l'endométriose dans Grand Bien Vous Fasse. L'endométriose, désormais mieux diagnostiquée, mais longtemps ignorée, minorée. Une femme sur 10 en souffre. Rappelez-nous peut-être d'abord ce qu'est l'endométriose.
Alors, l'endométriose, c'est une maladie qu'on connaît depuis très longtemps et qui consiste à ce que des cellules de l'utérus migrent en dehors de l'organe où il doit normalement avoir sa place. Alors, il peut migrer à l'intérieur du pelvis, de l'abdomen, il peut migrer sur différents organes, les reins, l'ovaire, etc. Et la conséquence de cette migration, on ne sait pas du tout quelle est l'origine, on cherche beaucoup sur le pourquoi, du comment, c'est quelle est l'origine de cette maladie, on ne sait pas pour le moment. Alors, la conséquence, c'est la douleur. Simplement, il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a des femmes qui ont une endométriose qu'on découvre un peu par hasard et qui n'ont strictement aucune douleur. Il y a des femmes qui ont très peu d'endométriose sur l'imagerie qu'on fait et qui ont horriblement mal, qui ont des vies totalement désastreuses à cause de ces douleurs. Donc tout l'intérêt, c'est effectivement, c'est pas tant finalement le diagnostic que répondre à ce que disent les femmes de leur douleur.
Et pourquoi l'endométriose a été si longtemps ignorée, minorée par la médecine ?
Parce que la douleur, ça fait partie de la vie des femmes et qu'on n'en a jamais, jamais, jamais tenu compte. Et que vous avez encore, moi je le vois encore en consultation, des jeunes femmes qui arrivent, qui ont vu plusieurs médecins, qui ont des règles douloureuses et à qui on ne donne strictement rien comme produit, alors que nous savons quand même maintenant comment calmer les douleurs de règles.
Muriel Salles.
Parce que depuis au moins le 19e siècle, les femmes sont considérées comme d'éternelles malades. Donc une femme qui va bien étant une femme qui va mal, une femme qui va mal est une femme normale et donc on ne propose pas de prise en charge.
Sabrina Nadjar, Femme Actuelle, a donc établi un palmarès des villes où les femmes sont le mieux soignées. Quel est le podium, les deux premières villes?
Numéro 2, Bordeaux. Bordeaux, en fait, où il y a une véritable politique de santé incarnée au niveau de la municipalité. Le maire et les adjoints au maire travaillent de concert avec les 15 associations locales investies dans la cause féminine. Et ça permet, en termes de soins, de vraiment accompagner les femmes et d'aller au plus près. On parlait tout à l'heure de santé mentale. La prise en charge de la santé mentale est aussi très importante. Et dans la ville. Et puis, Voilà, après, effectivement, on revient aux critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, en termes de densité médicale, en termes de centre de lutte contre le cancer, etc. Et puis, alors, vous attendez, je suppose, ben, la première place. Alors, ta-da-da-dam.
Vous faites bien. La première place.
Eh bien, figurez-vous que c'est un podium quand même très inattendu. Ouais. Je maintiens le suspense. En fait, la première est Bayonne. Et c'est la ville la moins peuplée des 50 plus grandes agglomérations de France que nous avons étudiées. Elle se place tout au-dessus du palmarès et effectivement, donc première pour l'accessibilité aux professionnels de santé, première pour les centres de traitement de l'endométriose dont on parlait tout à l'heure, première pour la densité de gynécologues médicaux, première pour la densité de cardiologues, deuxième pour le nombre de centres d'accompagnement à la procréation et deuxième pour le nombre de maternités. Mais ce qui fait la différence de Bayonne par rapport aux autres, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que les médecins prennent le temps d'écouter les patients. Effectivement, il y a beaucoup de médecins, donc il y a beaucoup plus de temps. Et donc, quand on passe du temps avec les femmes à les écouter, on arrive à une prise en charge qui est juste extraordinaire.
Et le classement général des 50 villes est à lire donc samedi dans Femmes Actuelles. Merci Sabrina Nadjar. Un mot de conclusion rapide, Muriel Sall, Daniel Assoun.
Bah moi, je voudrais juste saluer ce travail de recherche de données, parce qu'on manque souvent de données, et ne pas savoir, c'est ne pas pouvoir agir. Donc voilà, ça, je pense que c'était vraiment indispensable comme travail remarquable.
Daniel Assoun. Moi, j'aimerais bien qu'on cesse de dire que les femmes se plaignent, et se plaignent toujours, parce que ce que je pense, c'est qu'elles se plaignent vraiment pas assez.
Merci beaucoup, Muriel Sall. Je recommande le livre que vous avez publié avec Catherine Vidal, « Femmes et santé, toujours une affaire d'homme », avec un point d'interrogation. C'est très intéressant, très bien documenté. C'est publié par le Laboratoire de l'égalité et LNN Édition. Merci Dr Assoun et merci Sabrina Nadjar. Alors j'aimerais adresser un salut particulier à un grand monsieur de France Inter qui part à la retraite demain, Philippe Duclos, une légende pour ses collègues à France Inter. Philippe Duclos, formidable et sympathique opérateur du son. C'était un grand plaisir de l'avoir en face, derrière la vitre, en régie. Philippe Duclos, entré à Radio France en 1984, il a commencé à travailler dans les locales du sud de la France. En janvier 1988, il participe au démarrage de France Info. Et puis depuis 1990, Philippe Duclos était donc technicien à France Inter, où il a officié donc pendant 35 ans. Mon cher Philippe, je te souhaite une très belle retraite où tu pourras te consacrer à ta passion, la généalogie. Tu es derrière la vitre et je t'adresse un salut au nom de tous les personnels de France Inter. Merci pour ces très très belles années. Belle retraite à toi. Demain, je vous attends nombreux au Festival du Jeu à Cannes. Nous serons présents au Palais des Festivals en direct à 10h. On se demandera notamment si les jeux de société sont devenus une pratique culturelle comme les autres.